RFI Actualité, Caroline Paré.
L'onde de choc en Afghanistan, 4 jours après l'attaque qui pourrait avoir fait jusqu'à 150 morts dans l'une des plus grandes bases militaires du pays, dans le nord, près de Mazar-e-Sharif. Attaque perpétrée par un commando d'une dizaine de talibans qui a poussé d'ailleurs ces derniers jours plusieurs responsables de haut rang à quitter leurs fonctions, démission notamment du ministre de la Défense comme du chef d'état-major de l'armée afghane. Pour en parler en ligne avec nous, Georges Lefeuvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, on peut également signaler le départ, le limogeage de 4 généraux par les autorités. Alors ces sanctions sont un véritable signe. À qui s'adresse précisément ce signe ?
Bien, il s'adresse d'abord à l'armée dont le niveau de corruption n'est plus un secret pour personne. Un rapport américain disait récemment que dans l'armée afghane, il y avait plus de 1000 généraux, c'est-à-dire davantage que dans l'armée américaine elle-même. Donc ça, c'est la promotion au bakchich, ou la promotion d'ailleurs par des accointances de relations tribales. Bon, il y a, semble-t-il, à peu près 20 000 soldats. Je donne quelques chiffres, c'est très marquant de la corruption. À peu près 20 000 soldats qui ont soit déserté, soit qui sont morts, sur un total de 360 000 officiellement, qui ne sont pas déclarés déserteurs ni morts, de manière à ce que leur commandant puisse percevoir leur salaire. Voilà. On pourrait multiplier à l'envi ce genre de choses, mais l'armée afghane est en grand état de difficulté et de corruption.
Avec des attaques particulièrement meurtrières, il y a donc eu vendredi dernier cette base du nord du pays. Il y avait eu aussi l'hôpital militaire de Kaboul, avec dans les deux cas un sentiment de colère au sein de la population.
Oui, bien sûr, parce que la population ne se sent pas défendue. Je signale qu'aujourd'hui même, ou hier plutôt, il y a une autre base militaire qui a été attaquée par les talibans dans l'Est, dans la région de Rost. On ne connaît pas actuellement les dégâts, mais manifestement, les talibans s'acharnent maintenant sur les bases militaires. Ce n'est pas tout à fait étonnant. On a connu le même genre de choses au Pakistan dans les années 2007, 2008, 2009, où les talibans pakistanais avaient même attaqué plusieurs fois le grand quartier général de l'armée. Et Dieu sait si l'armée pakistanaise est une armée beaucoup plus professionnelle et aguerrie que ne l'est l'armée afghane. Donc ça devient le point faible sur lequel les talibans s'appuient.
Avec dans ces différents cas des complicités internes.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la guerre green and blue, c'est-à-dire on fait rentrer des éléments talibans à l'intérieur d'une base militaire, et ce sont des gens qui portent l'uniforme, qui reçoivent leur salaire et qui sont de très bons soldats, mais qui sont infiltrés évidemment. Ça c'est une technique, une tactique qui existe depuis à peu près 3 ou 4 ans.
Vous parliez tout à l'heure justement de corruption, est-ce que ce sont des gens qui justement intègrent les forces armées pour s'infiltrer, ou est-ce que ce sont des personnes qui sont retournées par la corruption, par l'argent ?
Là, vous pouvez avoir les deux, mais la plupart du temps, ce sont quand même des éléments assez fiables du point de vue des talibans qui vont s'enrôler dans l'armée. Bien, pour s'enrôler dans l'armée, les précautions sont prises maintenant, il faut être recommandé désormais par quelqu'un qui va se, généralement un élu ou un haut fonctionnaire qui va se porter garant de vous, mais ça ne suffit absolument pas à faire entrer des gens dans les forces militaires afghanes.
Tout à l'heure, vous disiez ces départs à la tête de l'armée, signal justement pour les militaires, peut-être aussi signal pour les Américains, puisque l'annonce s'est faite au moment justement où le responsable du Pentagone était en visite à Kaboul.
Oui, bien sûr, James Mattis est arrivé, mais derrière cette attaque de la base qui a fait 140 ou 150 morts, James Mattis, donc le secrétaire d'État à la Défense, vient avec un agenda politique aussi. Ce qui l'inquiète énormément, c'est le changement d'attitude de la Russie vis-à-vis des talibans. Il y a même eu des accusations selon lesquelles les Russes auraient fourni de l'armement aux talibans, et c'est une affirmation qui n'a pas été démentie par Zamir Kabulov, qui est l'envoyé spécial de Poutine sur l'Afghanistan-Pakistan. Donc il y a un changement de disons que c'est la Russie qui a pris la main, et d'ailleurs je vous dirais, ça me paraît extrêmement important. Il y a eu une conférence sur l'Afghanistan qui s'est tenue à Moscou le 29 décembre. Étaient invités à cette conférence la Chine et le Pakistan seulement. Ensuite, le 15 février, il y a eu une autre conférence qui s'est tenue à Moscou, où étaient invités l'Inde, l'Iran, le Pakistan et la Chine. Et là, la semaine dernière, juste après la bombe, maxi-bombe que Donald Trump a larguée sur le Nangarhar, se tenait
l'Est de l'Afghanistan, il y avait eu 96 morts.
Mais c'était la veille de la tenue à Moscou d'une troisième conférence où se retrouvaient cette fois-là la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran et, tenez-vous bien, quatre républiques d'Asie centrale, ce qui est exactement la configuration de ce qu'on appelle pudiquement l'organisation de la conférence de Shanghai, de la coopération de Shanghai, mais qui est beaucoup plus une coopération maintenant économique, que Poutine a lentement, il a été l'architecte depuis 2001 de cette organisation qui regroupe maintenant la Fédération de Russie, la Chine, l'Inde depuis juin 2016. Personne n'a fait attention à ça. Mais l'Inde et le Pakistan font partie de cette organisation. L'Iran va rentrer cette année en 2017. Et ça fait un ensemble géopolitique d'une force d'attraction incroyable, puisque ça représente tous ces pays-là, plus les quatre républiques d'Asie centrale et la Russie, ça représente quand même 45% de la population mondiale, ça représente 30% des réserves connues de gaz, et ça représente surtout quatre puissances nucléaires, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde et le Pakistan. Et 45%, je rappelle bien, de la population mondiale. Donc ça devient une espèce d'organisation non plus de la coopération de Shanghai, mais de la conférence de Shanghai. Et la plupart des conférences sur l'Afghanistan se tiennent soit à Astana, au Kazakhstan, comme celle d'ailleurs sur la Syrie, soit à Moscou, et on voit en gros que l'Occident a perdu la main.
Merci.
Et lorsque on s'étonne de la puissance de Poutine depuis la prise d'Alep, et que certains répondent « mais la Russie n'est pas si puissante que ça, ce ne sont que 150 millions de personnes avec un PIB à peine supérieur à celui de l'Italie », personne n'a fait attention à cette architecture que Poutine a commencé à organiser dès 2001, à l'époque où les Américains avaient mis des bases militaires en Asie centrale pour chasser les talibans, et que, tout simplement, Poutine avait peur que son prêt carré ne passe dans la zone d'influence américaine, disons occidentale, et de la coalition. Voilà.
Merci beaucoup, Georges Lefeu, d'avoir répondu à nos questions.